To undaughters, to our sisters, to our mothers, if the earth is a woman, if the sea is a woman, if the moon is a woman, I know God is a woman, if a man is a woman.
Le cycle menstruel. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui initialement fait partie du domaine de l'intime. Mais ces dernières années, le cycle menstruel, les règles, le syndrome prémenstruel et j'en passe, sont devenus des sujets de santé publique. Des sujets qui font partie des informations que l'on trouve de plus en plus facilement sur le pourquoi du comment ça se passe dans le corps des femmes. Et oui, après s'être concentré pendant des siècles sur le corps des hommes, enfin on accorde plus d'importance à la majorité des êtres de cette planète. Bref. Personnellement, je fais partie d'une génération qui fait bouger les choses au niveau des connaissances et surtout de la vulgarisation de ces connaissances. Nous aussi, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on nous proposait uniquement la pilule contraceptive dès 15 ans, sans véritablement comprendre et savoir l'effet concret que celle-ci avait et a sur nos corps. Bien que la pilule convienne à de nombreuses femmes, il est devenu nécessaire de se demander qu'est-ce que ce petit cachet renferme. Mais pour commencer, on va parler de cycle menstruel. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela engendre ? Comment impacte-t-il nos vies ? Et comment vivre mieux avec ? Ici Lisa, pour Être Bien de la Radio Girafe, et aujourd'hui, nous allons questionner ce qui se passe au cœur du corps des femmes. Historiquement, les règles ont été tabous. Elles représentaient un danger pour les hommes. Au début, les menstruations étaient considérées comme saintes et sacrées. Puis, au fur et à mesure, elles sont devenues, dans le regard des gens, impures et profanes. Profane. Vous entendez quand même. La femme, pendant sa menstruation, était perçue comme une source ambulante d'énergie destructrice, possédant, par sa féminité, un pouvoir magique qui ne pouvait être contenu qu'en excluant la femme de la communauté, voire même du territoire. Dans de nombreuses cultures, dès leurs premières règles, les femmes étaient obligées de rester dans une hutte, à l'écart du village. Elles n'étaient pas autorisées à toucher les objets de la vie quotidienne, car tout ce avec quoi elles entraient en contact durant cette période était contaminé et devait être détruit. Et oui, la peur, ça emmène loin parfois. Et on le voit encore aujourd'hui dans notre actualité internationale. Enfin bref, je vais pas commencer à faire de la politique, mais j'aimerais juste rajouter que les femmes étaient aussi interdites de toucher quoi que ce soit appartenant à un homme. Pourquoi ? Eh ben, par peur qu'il meure, voyons, ou qu'il n'accomplisse pas ses prouesses à la chasse. Enfin, là je vous raconte que 2-3 faits, mais il y en a plein d'autres, et je vous invite vivement à vous y intéresser. J'avais fait un épisode complet dans mon ancien podcast où l'on abordait la thématique des menstruations et le regard que portent les gens sur celles-ci à travers 4 cultures. La culture mauricienne, algérienne, rwandaise et coréenne. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Les menstruations, elles ont été et sont parfois des moyens d'humiliation. Ça me rappelle une anecdote, loin d'être amusante, mais très représentative de ce que peut vivre une adolescente. Au collège, l'une de mes meilleures amies avait ses règles et a malheureusement eu une fuite en cours de musique. Il y avait du sang sur son pantalon et sur sa chaise. Les garçons de la classe s'en sont rendus compte et c'est là qu'ont démarré les rires et les messes basses. Cette histoire a valu à mon amie une année entière à être surnommée Ketchup. Oui, bien sûr, c'est du harcèlement. Et oui, on l'a toutes subi à un moment ou à un autre pour des raisons en lien avec l'évolution de nos corps, que ce soit nos hanches, nos fesses, nos seins ou nos menstruations. Enfin bref, heureusement, aujourd'hui ça a évolué, enfin j'ose l'espérer. Malgré notre héritage, nous ne sommes plus toujours obligés de nous cacher, de faire semblant ou d'ignorer, car le monde est de plus en plus éduqué sur la question. Bon, évidemment, je parle via mon prisme qui est plutôt éduqué et privilégié et par conséquent pas hyper méga représentatif de la société. Mais bon, j'ose espérer que le positif des réseaux sociaux et des médias et de l'extrême présence des médias dans nos vies a au moins cet avantage d'ouvrir la réflexion et la considération sur ce genre de thématique. Voilà, c'était le moment histoire, révolution et prise de conscience. Donc maintenant, comme à chaque fois, on repart sur un point de vue plus étymologique. Le terme menstruation vient du mot latin mésis, qui signifie moi, qui est proche aussi du grec méné, qui signifie la lune, et qui évoque une parenté avec les cycles lunaires et menstruels. Car oui, au cas où vous ne sauriez pas, les cycles menstruels sont liés au cycle lunaire. Pas au sens magique ou ésotérique, même si on pourrait en parler longtemps, mais au sens biologique et rythmique. Un cycle menstruel dure en moyenne 28 jours, et un cycle lunaire aussi. Et même si aujourd'hui toutes les femmes ne sont pas synchronisées avec la lune, il reste quelque chose de très puissant dans cette idée. Le corps féminin fonctionne par cycle, par vague et par phase. Il n'est pas linéaire, il n'est pas constant. Et pourtant, dans notre société, on nous demande d'être performante, disponible, efficace, tous les jours de la même manière. Mais oui, bien sûr! Mais le corps, lui, bah, ça fonctionne pas comme ça. Alors concrètement, c'est quoi un cycle menstruel? Le cycle menstruel, il correspond à l'ensemble des changements hormonaux. Retenez bien ce mot, car il est important. L'ensemble des changements hormonaux, du coup, que traverse le corps d'une femme entre le premier jour des règles et le premier jour des règles suivantes. Ce cycle, est orchestré par plusieurs hormones principales. Les oestrogènes, la progestérone, la FSH, la LH, et oui, LH comme le Havre, à bon entendeur. Bon, ce sont des noms un peu barbares, mais qui sont en réalité les grandes chefs d'orchestre de notre énergie, de notre humeur, de notre concentration, de notre sommeil, de notre libido, de notre digestion, et même de notre rapport au monde. Moi, j'ai une vraie question. Est-ce que vous avez déjà remarqué que votre énergie change selon le moment du mois? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les hormones du cycle menstruel. Qui fait quoi et pourquoi c'est essentiel? Eh bien, le cycle menstruel, il repose sur un dialogue extrêmement fin entre le cerveau, les ovaires et l'utérus. C'est un dialogue qui est orchestré par donc toutes les hormones dont on a parlé, qui sont produites principalement par l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires. On parle souvent des quatre principales, les oestrogènes, la progestérone, le FSH, le LH. Une fois de plus, ça n'a rien à voir avec le Havre. J'arrête. Maintenant, je n'en parle plus. Mais ce ne sont autres que des hormones qui jouent un rôle clé. Si on entre dans le détail et qu'on commence par les oestrogènes, c'est les hormones de la croissance et de l'élan. Let's go. Les oestrogènes, elles sont souvent appelées les hormones féminines par excellence. Car même si les hommes en produisent, ils en produisent en bien plus petite quantité. Leur rôle principal, c'est de stimuler la croissance de la muqueuse utérine, qui est donc l'endomètre. Ça favorise la maturation des ovules dans les ovaires, participe au développement des caractères sexuels féminins et influence la densité osseuse, la qualité de la peau, la mémoire, la libido et l'humeur. Et dans le cycle, elle augmente surtout pendant la phase folliculaire. Retenez bien ça, car après on bosse sur les cycles. Donc la phase folliculaire, elle est juste après les règles, jusqu'à l'ovulation. C'est grâce aux oestrogènes que l'énergie remonte, que la concentration s'améliore, que la confiance augmente, yes, et que la sociabilité est souvent plus fluide. En résumé, eh bien, les oestrogènes, ce sont des hormones de vitalité, de croissance, d'ouverture et de connexion sociale et émotionnelle. Un déséquilibre des oestrogènes peut entraîner fatigue, troubles de l'humeur, acné, troubles de cycle menstruel, troubles donc irréguliers, cycles irréguliers et douleurs. Ensuite, la seconde, c'est notre amie la progestérone, qui est l'hormone de la stabilité et du calme. La progestérone, elle est souvent moins connue, mais elle est essentielle. Son rôle principal, c'est préparer l'utérus à accueillir une éventuelle grossesse. Elle stabilise la muqueuse utérine, régule l'action des oestrogènes et agit comme un calmant naturel sur le système nerveux. Dans le cycle, elle augmente après l'ovulation, durant la phase lutéale. C'est elle qui favorise le besoin de ralentir, une plus grande intériorité et parfois une légère baisse d'énergie et une augmentation de la température corporelle. En résumé, la progestérone, c'est une hormone de protection, d'apaisement, d'ancrage et de sécurité intérieure. Un manque de progestérone, c'est souvent associé à un syndrome prémenstruel, à l'anxiété et aux troubles du sommeil, voire même à l'irritabilité. Ensuite, il y a la FSH. C'est l'hormone qui lance le cycle. La FSH, ça signifie Follicle Stimulating Hormone, ou hormone folliculo-stimulante. C'est bien moins sexy en français, je sais. Donc son rôle principal, c'est important aussi de dire qu'elle est produite par l'hypophyse qui est dans le cerveau. La FSH, elle stimule donc les ovaires pour qu'ils développent des follicules contenant les ovules. Elle permet la maturation d'un ovule chaque mois. Elle déclenche indirectement la production d'œstrogènes. Et dans le cycle, elle est active surtout au début du cycle, juste après les règles. En résumé, la FSH, c'est une hormone de démarrage, de sélection, de mise en route du cycle. Sans FSH, il n'y aurait tout simplement pas d'ovulation possible. Et on va parler maintenant de la LH, l'hormone qui est déclencheuse de l'ovulation. LH, donc comme je vous l'ai dit mille fois, ça signifie pas le Havre, arrêtez, mais ça signifie luteinizing hormone ou hormone luteinisante. Et donc son rôle principal, ça provoque la libération de l'ovule, donc l'ovulation, ça transforme le follicule vide en corps jaune, et ça permet ensuite la production de progestérone. Et dans le cycle, un pic brutal de LH déclenche l'ovulation, généralement vers le milieu du cycle. Et en résumé, donc c'est une hormone de déclenchement, de passage, de bascule hormonale. Et sans le LH ou l'ALH, oui, l'ALH, il n'y aurait pas d'ovulation, donc pas de cycle menstruel fonctionnel. Évidemment, il y a d'autres hormones essentielles dans le cycle menstruel. Le cycle ne se résume pas à ces quatre hormones. Il y a d'autres acteurs qui jouent un rôle hyper méga fondamental, comme la GnRH, qui est une sorte de chef d'orchestre invisible, qui signifie gonadotropin releasing hormone. Elle est produite, elle, par l'hypothalamus et elle commande la libération de la FSH et de la LH par l'hypophyse. Elle régule tout le rythme du cycle. Et c'est elle qui fait le lien entre le cerveau et les ovaires. Le stress, les troubles alimentaires ou un choc émotionnel, ça peut complètement perturber sa sécrétion et donc dérégler le cycle. Ensuite, il y a la prolactine qui est connue pour son rôle dans l'allaitement. Elle intervient aussi dans le cycle. En excès, elle peut bloquer l'ovulation, provoquer des cycles irréguliers et entraîner une absence de règles. Ensuite, il y a le cortisol, qui est l'hormone du stress par excellence. Le cortisol n'est pas une hormone sexuelle, mais il influence directement la santé hormonale. C'est en fait un stress chronique qui est lié à l'hormone du cortisol qui est trop élevée. Ça peut bloquer l'ovulation, diminuer la progestérone, aggraver le SPM, donc le syndrome prémenstruel, et dérégler carrément le cycle. Le stress, de toute façon, c'est un des premiers perturbateurs hormonaux chez les femmes. Et ça, c'est important de le noter, car notre société, elle est bien trop stressée. Mais bon, ça, on le sait, hein. Hommes, femmes, éléphants... Enfin, non, peut-être pas. Mais bon, on s'est compris. Ensuite, il y a l'insuline. L'insuline, on la connaît toutes et tous, car elle est liée souvent au diabète, et c'est une hormone qui est donc liée au sucre et au métabolisme, et des troubles de l'insuline, et bah, comme dans le SOPK d'ailleurs, le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut perturber l'ovulation, augmenter les androgènes, donc les hormones masculines, provoquer de l'acné, de la pilosité, des cycles longs, voire absents. Et pour finir, oui, c'est la dernière, il y a les androgènes. Donc les androgènes, c'est la testostérone et la DHEA. C'est oui, les femmes, elles produisent aussi des hormones dites masculines, car elles sont essentielles pour la libido, l'énergie ou la tonicité musculaire, mais en excès, elles sont responsables de troubles du cycle, d'acné hormonal, de SOPK. Et le cycle menstruel n'est pas un simple mécanisme reproductif, c'est un système hormonal très fin, qui est sensible, et surtout sensible à nos émotions, à notre stress, à notre alimentation, à notre sommeil, et aussi à notre environnement. Et je tiens à le préciser parce que environnement, on peut penser et souligner que les pesticides et les polluants éternels présents dans notre alimentation depuis des années ont par conséquent des conséquences, c'est très très moche, mais on va le dire quand même, sur notre organisme et Nos hormones, ce sont des polluants qui peuvent vraiment engendrer de graves conséquences. Comprendre le rôle de chaque hormone, c'est un peu reprendre du pouvoir sur sa santé. Et reprendre du pouvoir sur sa santé, c'est l'objectif de cette chronique. You know what I mean? Ne plus subir ses symptômes, savoir les lire et apprendre à respecter le rythme vivant de son corps. Voilà, bon, j'arrête de vous embêter avec les hormones. Maintenant, on passe au cycle. Oui, on est très théorique aujourd'hui. Mais c'est important la théorie de temps en temps. On peut pas être uniquement dans l'expérience sensorielle, ok? Non mais je rigole. Bref. Donc, le cycle. On découpe généralement le cycle en quatre grandes phases. La première, c'est la phase menstruelle, les règles. Le moment où l'utérus se vide, où le corps élimine ce qu'il n'a pas utilisé, comme l'ovule non fécondé. C'est une phase de retour à soi, de ralentissement naturel, de fatigue parfois, mais aussi de grande lucidité émotionnelle chez beaucoup de femmes. La deuxième phase, c'est la phase folliculaire. Juste après les règles, l'énergie remonte, le cerveau devient plus clair, plus vif. C'est souvent une période propice à la créativité, aux nouveaux projets et aux prises de décisions. Ensuite, il y a l'ovulation. Donc c'est la phase la plus lumineuse pour beaucoup de femmes car c'est celle où les œstrogènes sont au maximum. On se sent plus confiante, plus sociable, plus magnétique parfois et c'est une phase d'expansion, d'ouverture, voire même de lien. Et enfin, la phase lutéale, celle qui précède les règles. Les hormones, elles redescendent, parfois même elles chutent, violemment même. Et le corps, il demande plus de repos, plus de douceur. Et c'est là que peut apparaître le syndrome prémenstruel, qui engendre énormément d'irritabilité, d'hypersensibilité, de fatigue, de douleur, de troubles digestifs et parfois même de troubles émotionnels. Mais c'est aussi une phase très riche intérieurement, où l'intuition est souvent plus fine et plus profonde. Comprendre ça, c'est changer complètement son rapport à soi. J'aimerais vous parler maintenant de l'impact du cycle menstruel. Avant tout, j'aimerais vous lire un extrait du livre « Lune rouge, les forces du cycle féminin » de Miranda Gray. Durant des siècles, le cycle féminin a été perçu avec un mélange de révulsion et de mépris. On le considérait comme sale, comme signe de péché, et son existence renforçait la position inférieure des femmes dans une société dominée par les hommes. La menstruation continue d'être considérée aujourd'hui comme un inconvénient biologique, rendant les femmes émotives et irrationnelles. De nombreuses femmes traversent la vie en se détestant et en se sentant coupables de déprimer, d'être irritables et de se sentir ballonnées, et parfois même d'être maladroites à certaines périodes du mois. C'est un livre que j'ai trouvé hyper intéressant, car il permet d'ouvrir le regard sur les menstruations, et d'offrir une nouvelle forme de pouvoir concernant les règles qu'on nous a plutôt appris à, pas à rejeter, mais à trouver ça sale et inapproprié. Alors qu'en réalité, c'est la nature, et c'est là, et c'est vrai, et faut le vivre pleinement en fait. Parce que non, on peut pas dire que les femmes sont lunatiques, instables ou trop émotives. Vous avez déjà tout entendu la phrase « Non mais t'as tes règles ou quoi ?» Non mais sérieusement, on est cyclique, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Et en fait, entre être lunatique, instable ou émotive et être cyclique, il y a une grande différence. Et c'est là qu'on arrive à la notion de santé hormonale. La santé hormonale, ce n'est pas juste ne pas avoir mal ou avoir des règles régulières. C'est l'équilibre subtil de toutes ces hormones, mais aussi avec le reste du corps, donc le sommeil, l'alimentation, le stress, le microbiote, le système nerveux, l'activité physique et même notre environnement émotionnel. Et quand cet équilibre est perturbé, ça peut se manifester par des règles beaucoup plus douloureuses, un SPM intense, de l'acné persistante, une fatigue chronique, des troubles de l'humeur, des difficultés de concentration, une baisse de libido, ou encore des cycles irréguliers. Et pourtant, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on nous a appris à banaliser ces signaux. On nous a parfois dit « c'est normal d'avoir mal, c'est dans ta tête » ou « c'est comme ça quand on est une femme ». Mais non, non, non et non. Avoir mal, au point de ne plus pouvoir vivre normalement, ce n'est pas normal déjà, et c'est surtout pas une fatalité. Avoir des variations émotionnelles violentes, Ce n'est pas une obligation biologique, ce sont des messages du corps. C'est des signaux d'un déséquilibre à écouter plutôt qu'à faire taire. Et c'est là que la question de la pilule contraceptive entre en jeu. Pendant des décennies, on a proposé la pilule comme solution universelle, parfois sans véritable information sur ce qu'elle faisait réellement au corps. Or, la pilule ne régule pas un cycle. Elle le met artificiellement en pause. Elle bloque l'ovulation, modifie la production naturelle des hormones et impose un cycle hormonal synthétique. Ce n'est ni bien ni mal en soi. Pour certaines femmes, c'est une libération. Pour d'autres, ça crée vraiment des effets secondaires importants, comme une baisse de libido, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de la dépression, une fatigue ou des troubles digestifs. Ce qui est fondamental aujourd'hui, ce n'est pas d'être pour ou contre la pilule, c'est d'avoir le choix éclairé, de faire un choix éclairé, de comprendre ce qu'on met dans son corps et surtout de pouvoir écouter ses ressentis sans les minimiser. Parce que la santé hormonale, ce n'est pas une norme, c'est un équilibre personnel, mouvant et vivant et qui dépend vraiment de chaque personne. Et peut-être que la vraie révolution aujourd'hui, ce n'est pas seulement de mieux connaître nos hormones, c'est de mettre et remettre le corps féminin au centre de la réflexion médicale, sociale, politique et intime. C'est important de reconnaître que chacune a ses rythmes, ses fragilités, ses puissances et que nous méritons toutes d'être comprises et non d'être contraintes. Mais la question, c'est comment savoir si notre santé hormonale va mal? Eh bien, notre santé hormonale, elle nous envoie presque tous les jours des signaux. Mais on a appris à les banaliser, ces signaux. On peut s'alerter quand on observe des cycles irréguliers, absents ou très douloureux, un syndrome prémenstruel intense, avec de la fatigue, de l'anxiété, de l'irritabilité ou de la déprime, une fatigue chronique malgré le repos, des variations de poids ou d'appétit inexpliquées, des troubles du sommeil, une baisse de libido, ou encore des problèmes de peau ou des chutes de cheveux inhabituelles. Ce ne sont pas des petits désagréments féminins, mais souvent c'est des signes que quelque chose est déséquilibré. Le corps ne dysfonctionne jamais sans raison, et quand ces symptômes durent ou impactent la vie quotidienne, il est important de consulter et d'explorer la piste hormonale. Si vous voulez approfondir concernant votre santé hormonale, je vous invite vivement à aller découvrir les sources et ressources que je propose en barre d'infos. Maintenant que l'on sait repérer les signaux que nous envoie notre corps, la question suivante est : que faire pour préserver ou rééquilibrer sa santé hormonale ? Car loin d'être un mystère, notre cycle menstruel et nos hormones peuvent être accompagnés au quotidien grâce à des gestes simples, des choix de mode de vie et parfois un suivi médical adapté. La première chose à comprendre, c'est que nos hormones sont extrêmement sensibles à nos modes de vie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, le sommeil, l'alimentation, le stress, l'activité physique ou encore notre environnement, ça peut directement influencer l'équilibre. Première chose essentielle, le sommeil. C'est pendant la nuit que notre corps régule une grande partie de ses hormones. Un manque de sommeil chronique peut perturber la production de cortisol, d'insuline, mais aussi d'hormones sexuelles comme les œstrogènes ou la progestérone. Deuxième pilier, l'alimentation. Parce que c'est vrai, certaines carences, elles peuvent complètement fragiliser l'équilibre hormonal, notamment en fer, en magnésium, en oméga-3 ou en vitamines du groupe B. A l'inverse, une alimentation trop riche en sucre rapide ou ultra transformé peut favoriser les inflammations et perturber la régulation hormonale. Si vous voulez comprendre et parler inflammation, je vous invite à aller écouter mon premier épisode de podcast sur le microbiote intestinal. Troisième élément clé, la gestion du stress. Le stress chronique, ça augmente la production de cortisol, hormone du stress qui peut bloquer l'ovulation, accentuer le syndrome prémenstruel ou dérégler les cycles. C'est pour ça que des pratiques simples comme la marche, la respiration, le yoga ou la méditation peuvent avoir un réel impact sur l'équilibre hormonal. Il y a aussi l'activité physique qui joue un rôle très important. Bouger régulièrement aide à réguler l'insuline, ça améliore la circulation sanguine, la circulation sanguine et soutient l'équilibre hormonal. Enfin, il y a l'écoute de son cycle, observer ses phases d'énergie, comprendre quand le corps demande du repos ou au contraire de l'action. Ça peut vraiment aider à vivre plus en harmonie avec son rythme biologique. Et bien sûr, si certains symptômes deviennent trop lourds, douleurs importantes, cycles très irréguliers, fatigue intense, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Parce que prendre soin de sa santé hormonale, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de santé globale. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas conclure en parlant de médecine traditionnelle. Je vais conclure en parlant avec mon cœur et mon corps, en parlant avec engagement. Le mois de mars, c'était le mois de la femme. Aujourd'hui, on est au mois d'avril, c'est le printemps, c'est le renouvellement, c'est la floraison. Donc on est vraiment en plein dans le thème pour parler tout ça. Au fond, parler du cycle menstruel, ce n'est pas seulement parler de règles, c'est parler d'un corps qui pendant des siècles a été jugé, contrôlé, invisibilisé et parfois même ridiculisé. Un corps que la médecine a longtemps étudié comme une exception, ou pire, comme un problème. Mais aujourd'hui, les choses changent. De plus en plus de femmes cherchent à comprendre leur cycle, leur santé hormonale, leur énergie, leur rythme. Elles lisent, elles échangent, elles questionnent les discours médicaux, les normes sociales, qui ont aussi longtemps dicté la manière dont elles devaient vivre leur corps. Et ça, c'est profondément politique. Parce que comprendre son cycle, ce n'est pas seulement une question de bien-être, c'est une forme de réappropriation. Se réapproprier son corps, se réapproprier sa santé, se réapproprier des savoirs qui ont longtemps été ignorés, minimisés ou transmis à moitié. Alors en ce mois, consacré à la floraison, au printemps, au renouvellement, peut-être que la vraie révolution, elle est là. Dans le fait de remettre le corps féminin au centre de la recherche, de la médecine et de l'éducation, mais aussi de nos conversations. Parce que le cycle menstruel, ce n'est pas une faiblesse, il n'est pas une anomalie ou un sujet honteux. C'est un rythme vraiment vivant, c'est un rythme qui mérite d'être compris, respecté et écouté. Et peut-être qu'en apprenant à écouter ce rythme, on fera un pas de plus vers une société qui enfin prend réellement en compte la santé et la réalité des femmes. C'était Lisa pour Être Bien de la Radio Girafe et ensemble, continuons d'apprendre, comprendre, surprendre, entreprendre et surtout répandre ce qui fera du monde de demain un monde plus juste, plus sain et où chacun sera son propre souverain. À bientôt!